BFM Business présente C'est votre argent, spécial placement. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, on s'est dit, gérer son argent en 2026, franchement, c'était pas très simple. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'en début d'année, toutes les prévisionnistes vous avaient dit, ça va être une année normale. Vous allez voir, il va rien se passer, ça va être comme l'année 2025. Bon, avec quelques petites différences, vous avez vu que c'était quand même très différent. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission non pas exceptionnelle, mais une émission spéciale et très spéciale même. Une émission spéciale placement pendant laquelle nous allons nous efforcer de vous donner tous les bons tuyaux sur les principaux placements. Nous allons parler diversification, allocation d'actifs, profil de risque, enveloppe fiscale, actions, obligations, non cotées, produits structurés. Vous allez tous savoir sur le placement car les Français ont le droit de savoir la vérité. Mais vous le savez maintenant, pour une émission spéciale, il faut des invités très spéciaux. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'allocation d'actifs et des placements. C'est le fondateur d'une des plus belles success stories de la gestion en France, gestion privée. Meyer Azoghi, vous êtes président du groupe Cyrus. D'abord, merci d'être venu.
Bonjour Marc.
Vous nous rappelez ce que fait Cyrus ?
Cyrus fait de la gestion privée, de la gestion de fortune pour des familles, des cas dirigeants avec, comme on dit en français, un one-stop shop, une approche globale, aussi bien l'aspect placement mais également juridique, fiscal. La gestion de patrimoine, c'est pas simplement être le plus riche du cimetière, c'est mettre en adéquation son patrimoine avec ce que l'on
a. Vous l'aviez préparé, celle-là. Celle-là, vous avez dû la sortir 40 fois.
Exactement.
Non. Meyer, ici, vous pouvez pas nous ressortir les trucs que vous sortez à chaque fois dans les présentations avec votre équipe pour les motiver.
Non,
on n'est pas dans les trucs,
vient,
là.
Ça vient spontanément. Quand on est là, on sent tellement bien.
Voilà, on est entre amis, là.
C'est comme la confiture, voilà, on l'étale ou c'est ce qui reste quand on a tout oublié. En tout cas, voilà, nous faisons de la gestion de fortune depuis 37 ans avec un modèle où les collaborateurs sont associés au capital et un alignement d'intérêts entre les collaborateurs, les clients, les investisseurs. Pourvu que ça dure.
Il n'y a pas de raison. J'ai aussi le plaisir d'accueillir le directeur général adjoint stratégie et développement corporate de Wendel, Cyril Marie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu. Vous allez nous parler beaucoup du non coté, votre spécialité. Vous nous expliquez Wendel. On connaît le nom,
voilà,
est tellement
le
connu,
nom de la famille Wendel.
Mais vous avez beaucoup changé la maison depuis quelques temps.
Ouais, il y a 300 ans d'histoire, mais plus récemment,
Wendel. Vous faites plus jeune, en tout cas.
C'est vrai, non, on essaye. La maison a une histoire d'investissement principal, comme on dit. L'argent de la famille était investi. Et plus récemment, il était décidé aussi d'investir en compte de tiers. Et on a développé une plateforme de gestion d'actifs dans le non-coté. Et c'est pour ça qu'on va en parler ensemble aujourd'hui.
Avec plusieurs marques, puisque vous avez la marque Wendel, vous avez ICA, vous avez acheté un groupe aux États-Unis qui s'appelle Monroe.
En Europe et aux États-Unis, dans le private equity, dans la dette privée et aussi dans le secondaire avec Comitat Advisor.
Et on rappelle que vous êtes coté.
Et c'est une société cotée, une des plus anciennes sociétés cotées d'Europe. Voilà. Wendel, sur le marché français.
Donc on peut acheter soit vos produits, soit acheter
on
votre
action. On peut acheter, et je vous recommande d'acheter les actions Wendel, bien sûr.
Et vos produits.
Et
allez,
nos produits.
Le spécialiste, lui, vous le connaissez. Puis alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a eu, là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On pensait qu'il avait un mariage, mais il a mis une cravate. D'habitude, il vient avec des pulls un peu crades. Hein.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Et puis, on peut vous charrier. Puis là, d'un coup, on ne peut plus vous charrier.
Et oui, faudra trouver autre chose.
Voilà. Bon, vous êtes devenu le spécialiste allocation d'actifs de C'est Votre Argent. Vous êtes fier de ça ou pas?
Ah oui, très fier.
Alors, parce qu'Alain vient régulièrement à l'émission, il nous donne ses grilles d'allocation. Et puis surtout, il continue à les publier sur les réseaux. Et puis, il les modifie en fonction des événements. Quand il y a un événement important, il modifie son allocation d'actifs. Et moi, je le suis et c'est vraiment très utile. Vous êtes senior advisor chez AI for Alpha, AI IA. L'IA dans la gestion, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est en train de bouleverser la gestion? Est-ce qu'avec l'IA, par exemple, on n'aura plus besoin de Meyer dans quelques temps?
Alors ça, je crois pas. Par contre, je pense que ça va beaucoup vous aider tous. Les uns pour gérer votre portefeuille tout seul, parce qu'on peut le gérer tout seul avec l'IA, c'est tout à fait possible. Et puis, on peut aussi mieux comprendre et mieux interpréter les documents qui sont fournis par les sociétés de gestion, quelles qu'elles soient, et puis améliorer comme ça la connaissance des marchés. Alors, AI for Alpha, c'est pas seulement ça. AI for Alpha, c'est deux choses, c'est des signaux. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe sur les marchés et on interprète avec l'IA ce qui pourrait se passer. En comprenant bien ce qui s'est passé, c'est extrêmement important. Et puis la deuxième chose, ça nous permet de construire des portefeuilles en fonction d'un objectif. On l'optimise et je l'utilise beaucoup, justement, de plus en plus pour le portefeuille que je suis pour.
Vous l'utilisez de plus en plus?
Oui, je l'utilise de plus en plus.
Ah, donc c'est pas vous, en fait. C'est un, oui, un moteur.
Je mets ma patte, mais je pense que c'est mieux. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'être totalement froid par rapport aux événements, alors qu'on a tous des biais de comportement, en fait.
Ah ouais, et c'est sûr que là, depuis le début de l'année, on a été servi. Il fallait réagir tranquillement. Allez, on passe tout de suite au mode spécial de l'émission spéciale, c'est la martingale. Voilà, j'ai osé, je le dis et je le répète. Eh bien oui, il y a une martingale sur le placement. Alors, ce n'est pas un placement miracle qui rapporte 15% sans risque. Ça n'existe pas. Alors, on vous le dit, ça n'existe pas. Si on vous propose un produit à 15% sans risque, déjà, voilà, l'émission vous aura servi à quelque chose, à ne pas vous faire arnaquer. C'est déjà pas mal, parce que je suis fasciné par le nombre de gens qui continuent à se faire arnaquer avec des promesses délirantes. Mais c'est une méthode simple, une méthode évidente. C'est la diversification. Mais hier, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire... Vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Vous avez le droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la martingale du placement, moi, c'est après 40 ans, j'ai vraiment l'impression que c'est la diversification?
Absolument. Ça a l'air d'être une notion simple,
oui. Ben oui.
Mais elle est de plus en plus nécessaire, quelle que soit la taille de son patrimoine. La diversification, c'est... On a l'habitude de dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais le problème, c'est que parfois, il y a des œufs dans des aliments qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Et donc, c'est d'avoir plusieurs classes d'actifs qui sont décorrélées, c'est-à-dire qui ne vont pas dans le même sens, qui font en sorte que si les taux d'intérêt remontent, on se retrouve pas pris de tous les côtés. Et derrière la diversification, il y a ce que nous appelons chez Cyrus l'allocation stratégique.
D'accord.
L'allocation stratégique, quand on calcule la performance, l'attribution de performance, elle vient à plus de 80% de l'allocation stratégique.
D'accord.
On a tendance à penser que le market timing, de dire est-ce que je suis au bon moment, le market timing, c'est 10% de la performance.
Alors attendez, je vous arrête deux secondes.
Oui.
Donc on a l'idée, le concept, c'est de dire il faut diversifier. D'accord ? Diversifier, c'est donc on va allouer une partie de son patrimoine à une classe d'actifs, c'est ce que vous appelez l'allocation d'actifs stratégique.
Absolument.
D'accord. Et ensuite, ce que vous appelez le market timing, parce que c'est vrai que les gens viennent toujours nous voir, vous, j'imagine tous, pour dire est-ce qu'il faut acheter la bourse maintenant, est-ce qu'il faut vendre l'or. Et j'ai envie de leur dire, si vous posez cette question, c'est que vous n'avez pas la bonne gestion, parce qu'il faut faire une gestion qui permette de ne pas se poser cette question-là. C'est ça que vous appelez.
Absolument. Et dans l'allocation stratégique, il y a plusieurs classes d'actifs. Les actifs cotés, non cotés, l'immobilier, le crédit, qui sont en soi des classes d'actifs. Mais il y a aussi la diversification des dépositaires. Et j'ai envie de dire, plus on est riche, plus on a un autre souci qui est le problème politique.
Mmh.
Et donc, ne pas avoir son argent uniquement, parfois dans le même pays, dans la même devise.
Il y a un message subliminal avant 2027, là vous...
Non, c'est un message naturel.
D'accord.
De diversification, okay. De bon sens.
Ouais.
Bien évidemment, on vit en France, donc on consomme en euros, il faut avoir de l'euro. Mais pourquoi avoir que de l'euro ?
D'accord.
Avoir d'autres devises. Et puis les dépositaires, ne pas avoir un seul, ni deux, ni trois dépositaires. Encore une fois, plus le patrimoine est important, plus on va avoir dépositaires différents en France, mais également à l'étranger, bien évidemment en toute transparence fiscale. Et donc cette diversification va permettre d'appliquer une méthodologie. Moi, s'il y avait une martingale, c'est la méthodologie de ne pas penser qu'il y a effectivement de placements miracles. Et dans la vie, il y a un trouple. C'est un couple à trois qui ne divorce jamais. C'est...
Ah bon, vous connaissez ça, moi.
La liquidité.
On va en apprendre. C'est...
Oui, mais souvent, on voit le risque.
Il y a des enfants qui nous regardent, hein, meilleur.
Mais c'est très... Ça peut être dit à tout le...
À toute heure.
On peut raconter ça à toute heure de la journée. Et on parle également pendant le déjeuner du dimanche avec sa belle-famille. Donc, il y a ce triptyque qui est le risque, la rentabilité, la liquidité.
Okay.
Je ne peux pas avoir tous les trois en même temps. Si je veux de la liquidité, je dois renoncer à une partie de rentabilité. Si je veux de la sécurité, je dois renoncer à une partie de rentabilité. Mmh. Donc l'allocation stratégique, c'est mettre en adéquation son patrimoine avec ce que l'on est. Si c'est prendre des risques et ne pas endormir la nuit...
Ça sert à rien.
Ça sert à rien.
Ouais. Donc ça, c'est le profil de risque. Bien définir son profil de risque.
Et ça,
ne pas se dire je suis audacieux alors qu'en fait on est trouillard. Absolument. C'est pas grave d'être trouillard.
C'est pas un jugement de valeur.
C'est pas un jugement de valeur.
Il y a des moments où on peut se permettre.
Voilà.
Et puis il y a des
audacieux, exactement.
Et d'autres on peut pas se le permettre en fonction de la structure de son patrimoine. Si j'ai besoin de revenus immédiats, je peux pas prendre de risque.
Bien sûr.
C'est pour ça que dans notre allocation stratégique on a trois strates. ce qui va nous servir aux revenus de liquidité, je veux dire la réserve de liquidité en cas de coup dur, les revenus différés, il y a une partie dont on n'a pas besoin en fait, en réalité. Quand on a un patrimoine important, on n'en a pas besoin.
Quel que soit le patrimoine, souvent, même dans des patrimoines de taille moyenne, parce que les gens qui nous regardent n'ont pas tous des patrimoines importants, mais même dans un patrimoine, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un fonds de cuve.
Et bien, celui-là, c'est celui qui va être investi de façon risquée. D'accord. Parce qu'on va avoir du temps devant soi. Encore une fois, ce sont des banalités, ou ce qui paraît des banalités,
mais moi, je
elles sont essentielles.
Mais je suis d'accord. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus.
La structuration de la méthodologie et la diversification, si voire une formule, c'est une assurance gratuite.
Ouais, je suis d'accord.
C'est une option gratuite. En finance, on appelle ça une option. Ouais, d'habitude, quand on prend une assurance, elle coûte de l'argent. Là, ça ne me coûte rien. Je diversifie sur plusieurs classes d'actifs, géographiques, etc. Donc,
Cyril, avant de venir vers vous tout à l'heure pour parler du non-coté, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire Meyer. Non, mais sur la notion que parce qu'on sacrifie, on est illiquide, on sacrifie une partie du rendement. C'est pas vrai pour le private equity.
Non, je pense que si on est illiquide, on doit avoir une prime de rendement supplémentaire. Ça fait partie des risques qui justifient un rendement supplémentaire. Après, tout ne peut pas être liquide tout le temps. L'économie, elle n'est pas liquide et fongible à tout moment.
C'est ça que.
Pourtant, on y reviendra tout à l'heure. Mais toute l'économie peut pas, n'est pas adaptée à la bourse. Hein. Pour quelques centaines d'entreprises cotées, il y a des milliers qui ne le sont pas. Vous avez des projets d'infrastructure, par exemple, qui sont très importants. Donc, tout ne peut pas être liquide. Mais ce qui est très important, c'est la diversification. Et je rajouterai, si je peux me permettre, c'est aussi l'horizon de temps. C'est-à-dire que si on épargne pour sa retraite, c'est pas la même chose que l'épargne de précaution pour si on a pour la retraite, on doit être capable d'avoir une stratégie beaucoup plus long terme. Et là, les actifs un petit peu moins liquides peuvent être adaptés.
Alors, on va rentrer dans les détails maintenant des différentes classes d'actifs. On va se tourner vers notre ami Alain Pitou pour lui poser la question. Quelles sont, parce que ça a beaucoup changé. Meyer, vous êtes d'accord avec nous, ça a beaucoup changé depuis quelques années. Avant. Vindel, on pouvait avoir l'action Vindel, mais avoir accès au fonds Vindel, pour le grand public, c'était compliqué. Oui. Aujourd'hui, il y a une panoplie de produits qui sont, on appelle ça, retailisés. Oui. Quelles sont les différentes classes d'actifs disponibles pour les particuliers? Et ma question, c'est même, est-ce qu'il y a des classes d'actifs aujourd'hui qui ne sont pas disponibles pour les particuliers, ou est-ce qu'ils ont accès à tout?
Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre la question.
Merci, c'est gentil.
Parce qu'en fait, on a accès à tout, quoi. C'est-à-dire que, si on se rappelle, c'est pas si vieux, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas forcément accès, même à des obligations, à des portefeuilles obligataires gérés d'une certaine manière. Je parle même pas du private equity qui était très peu accessible. Même la gestion de fortune était vraiment réservée à une clientèle extrêmement fortunée. Là, maintenant, on a des services qui sont offerts à des clients qui sont pas forcément extrêmement fortunés. Donc et au sein de ça, il y a la possibilité d'avoir accès à énormément de choses. Donc ça, c'est le gros changement. Je pense que la seule classe d'actifs, le seul type de produit qui est assez difficile accéder pour les clients privés, c'est vraiment les hedge funds stars, qui sont la plupart du temps fermés.
Ce sont ce qu'on appelle les fonds spéculatifs, le bon terme.
C'est pas vraiment le bon terme.
Il y a des fonds d'arbitrage,
des techniques de gestion assez particulières qui sont réservées à des grandes fortunes ou à des.
C'est peut-être la dernière classe d'actifs qui n'est pas accessible.
Et il y a deux raisons, c'est que souvent ils sont avec des montants minimums extrêmement importants, ou bien ils sont carrément fermés parce que le gérant ne veut plus diluer sa performance avec des actifs trop importants. Donc ça, c'est la première chose. Après, l'autre chose qui, je trouve, a énormément changé, c'est que au sein des produits, on a même accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès avant.
C'est-à-dire
qu'avant, dans le PEA, avant, vous aviez accès qu'à des actions. Mmh. C'était même difficile
d'avoir... Des actions européennes. Maintenant, actions dans le PEA, on a accès à des actions japonaises, qui est quand même un peu
ça
un contournement
un peu,
du truc.
Mais on peut même avoir accès à du monétaire. Il y a ça. L'assurance vie, avant, on avait accès à quelques fonds agréés par la compagnie d'assurance vie, et c'était tout, et un peu d'euros. Maintenant, il y a tout un tas de contrats qui offrent des perspectives tout à fait différentes. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que il y a une concurrence qui s'est mise en place. Alors, je parle même pas des ETF qui maintenant sont quand même vraiment accessibles par tout le monde, mais avant c'était quelques sociétés de bourse qui on appelait ça les agents de change dans le temps, qui offraient des prestations de gestion sur des titres. Il fallait vraiment avoir une fortune, il fallait vraiment être spécialiste pratiquement pour y aller. Et puis des banques privées voire quelquefois des banques de réseau qui offraient des services de banques privées. Maintenant, on a accès, il y a des Cyrus, il y a tout un tas de boîtes comme ça qui sont arrivées sur le marché, et puis il y a des fintechs. Alors au début, c'était un peu sulfureux, hein, c'était des petites boîtes qui offraient des services un peu marginaux, et puis bah ça s'est extrêmement développé, hein. Vous avez des eToro, des Revolut, etc., qui offrent des services maintenant qui sont totalement différents que ce qu'on avait avant. Et puis la dernière chose qui a extrêmement changé aussi, je trouve, c'est le niveau d'information. C'est-à-dire que aujourd'hui,
il y en a peut-être trop.
Bah, en fait,
j'ai envie de dire qu'il y en a trop, il y a beaucoup
en fait,
de bruit.
C'est un peu, je reprendrai l'histoire de la diversification de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir accès à tout un tas de choses, mais après, il faut se connaître. Bah, même chose sur l'information, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas d'intérêt pour vous, mais vous pouvez avoir accès à toute l'information disponible, et vous pouvez gérer vous-même parce que vous avez de la pédagogie, c'est-à-dire que toutes les sociétés en question offrent une pédagogie qui vous permet d'accéder tranquillement au marché.
Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu la notion de placement dans le temps. Et c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'agitation permanente avec comment je peux trouver un rapport.
Ça rebondit un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure.
Sur l'accès à l'information, c'est effectivement un changement majeur. Simplement, on est parti d'une période où il n'y avait pas d'information. Voilà. Aujourd'hui, il y en a beaucoup.
Ouais.
Et le problème, c'est pas qu'il y en ait beaucoup, il commence à y avoir de la fausse information.
C'est ça, je suis d'accord.
Et donc, on a un effet de balancier, on va trop loin. Il va falloir faire le tri. Et l'une des inégalités en termes de connaissances, elle vient de la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, vous allez interroger une IA peut avoir un bug, qui va vous raconter une énorme bêtise que vous allez suivre, même en partant d'une information qui est juste.
Mais c'est un peu votre rôle, en fait.
Absolument.
C'est pour ça que vous intervenez.
Tout à fait.
On va passer tout de suite, évidemment, parce qu'on parle d'allocation d'actifs, on parle de toutes les classes d'actifs, on va parler du non-coté. Ça, c'est vraiment une illustration d'une classe d'actifs qui était ouverte aux grandes fortunes et aux institutionnels il y a quelques années, que vous avez ouvert toutes vos sociétés équivalentes de gestion. Cyril, c'est quoi d'abord le non-coté ?
Alors, le non-coté ou les actifs privés, par opposition aux actifs publics ou aux actifs cotés, c'est l'ensemble des titres d'investissement dans des sociétés qui ne sont pas négociées en bourse, qui ne sont pas
liées. C'est aussi simple que ça, c'est ce qui n'est pas coté.
Exactement. Et donc, c'est la grande majorité des entreprises, la grande majorité des projets ne sont pas cotés en bourse. Ce que je disais tout à l'heure, pour quelques milliers d'entreprises cotées, vous avez des centaines de milliers d'entreprises dans tous les grands pays du monde qui ne sont pas cotées. En revanche, il ne faut pas opposer coté et non coté.
Okay.
Une économie forte, elle a besoin de financement coté et non coté, ça ne répond pas aux mêmes besoins. Et je pense qu'un portefeuille d'épargne, d'avoir du coté et du non coté, on pourra parler des proportions, je pense que c'est aussi très utile.
Est-ce que maintenant, on peut dire que c'est accessible pour les particuliers ?
L'accessibilité aujourd'hui, elle s'est renforcée. Déjà, il faut bien voir qu'en France, ça fait très longtemps qu'on fait du non coté. On a parlé de la pierre papier tout à l'heure, on a financé de l'innovation avec les FCPI pendant des années, c'était du non-coté, c'était très marginal.
C'est vrai.
Aujourd'hui, il y a eu une augmentation de l'accessibilité, tout le monde a fait le travail, les sociétés de gestion, les sociétés de conseil, les assureurs, le régulateur, vous avez des labels aujourd'hui des produits qui pour des tickets de 1000 euros, vous pouvez construire un portefeuille d'actifs non-cotés, diversifiés, qui vont vous amener un supplément de rendement, de diversification. Je trouve aussi de sens, parce que l'économie réelle associée au non-coté, ça peut faire du sens si c'est intéressant pour l'investisseur.
Meilleur, dans vos clients, ils ont tous... Enfin, je veux dire, à partir d'un certain niveau de patrimoine, il y a toujours du non-coté, non ?
Très clairement, c'est la classe d'actifs qui a émergé, sachant que dans le non-coté, on parle trop souvent uniquement de l'equity que des actions.
Mais
il y a également les infras, il y a la dette. Et donc, on doit pouvoir proposer... aujourd'hui, de l'allocation d'actifs en non-coté, comme on propose de l'allocation d'actifs en coté. Où on va dire, on prend des actions américaines, des obligations japonaises, c'est pareil, dans une classe d'actifs non-coté, on doit pouvoir prendre de la dette, de l'equity, du secondaire, de l'infra, pourquoi pas du géographique en fonction, ou même du sectoriel, en fonction de la taille du patrimoine, c'est véritablement...
Et de l'horizon de temps, on rappelle que ce ne sont pas des placements liquides, ce sont des placements à 10 ans, à 12 ans, et je pense qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Cyril, justement, quelles sont les erreurs à ne pas faire, et quels sont les moyens de sélectionner un bon fonds ? Est-ce qu'il faut sélectionner à la fois une bonne société de gestion ? Quel type de produit ? Donnez-nous les règles d'usage... du private
equity. En introduction, je vais reprendre ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils, de plateformes, de conseils de qualité pour être accompagnés pour construire ce genre de portefeuille. La première règle, c'est de se dire, je choisis mon enveloppe et ensuite, j'ai un horizon de temps long et je suis capable de définir quel est le pourcentage. Faut pas que ce soit trop faible. Si c'est 2%, honnêtement, ça n'a aucun impact sur le portefeuille. Entre 5, 10%, peut-être 15 pour certains. On définit ça. Ensuite, le deuxième sujet, c'est de bien choisir les fonds. Et moi, je recommande d'utiliser les conseils des distributeurs parce qu'ils font un travail de due diligence. Il faut en prendre plusieurs. Il ne faut pas se mettre uniquement dans les mains d'une société de gestion. Je pense qu'il est bien de choisir des sociétés de gestion qui ont eu du succès avec des clients institutionnels pendant des années, qui maintenant sont rodées. Elles ont un niveau d'expertise, d'expérience plus fort. Et le dernier point, c'est la diversification aussi dans le long côté. Il faut investir progressivement. Il y a des vintage, des millésimes dans le long côté. Il ne faut pas hésiter à pas monter à 10% d'un seul coup, peut-être le faire en 2 ans, 3 ans, parce qu'on épargne pour sa retraite là. Donc, et puis diversifier par classe d'actifs, pas faire que des actions. Faire de la dette, faire de l'infrastructure, peut-être un peu de diversification géographique aussi.
Et rappeler que c'est un investissement de long terme.
Ah, c'est un investissement de long terme.
Même si on l'a parfois en unité de compte dans l'assurance vie,
bien sûr.
Il faut se dire qu'on rentre dedans. Et on peut avoir besoin d'argent, bon, ok, on n'est pas à l'abri d'un accident, mais ce n'est pas l'esprit.
L'objectif, c'est d'avoir un surplus. Si on investit dedans, pourquoi on investit dans le long côté ? C'est pour avoir un surplus de performance. Je pense qu'il y a 3 éléments qui, dans le long côté, apportent de la surperformance. Le premier, c'est cet horizon de temps. C'est plus long, c'est liquide. Donc, on va vous rémunérer pour ça. Le deuxième, c'est souvent, notamment pour le private equity, des entreprises qui sont en plus forte croissance, mais qui ont aussi plus de levier. Il y a plus de risques. Donc, on sait sur un positionnement, du coup, prendre mon risque un peu plus élevé qu'une action large cap qui va avoir moins de levier et qui est plus mature. Donc, plus de risques, plus de levier, ça donne plus de rendement. Mais si vous n'avez pas cet besoin d'argent à court terme, à long terme, ça viendra améliorer la performance de votre portefeuille.
C'est très clair. Alors là, je vais demander ça en fin de chaque partie. Je vais vous demander un peu le tuyau spécial. Votre conseil, votre tuyau. Voilà, Enrico Macias nous le dit, il faut donner de l'argent. Alors, Meyer.
La barrière est trop haute, je ne sais pas ce que je peux dire. Après.
Alors, votre conseil, votre tuyau pour bien placer son argent en une phrase, pour nous donner.
Ben, peut-être que je l'ai déjà dit, y compris sur BFM. N'investissez que dans ce que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, n'investissez pas. Sinon, vous faites appel à Warren Buffett qui dit « Si vous ne connaissez pas les bijoux, connaissez le bijoutier ». Et comme j'ai l'habitude de le dire, je connais un très beau bijoutier dans la durée qui s'appelle Cyrus.
Très bien. Cyril, aujourd'hui, votre tuyau, voilà, pour répondre à Enrico Macias qui vous demande de lui donner de l'argent.
Non, je pense que c'est la diversification et l'intégration du non-coté qui commence juste au niveau des particuliers. Chez Wendel, on pense que c'est un axe de croissance fort.
L'économie. À quelle hauteur, juste, vous avez des idées de proportion, vous diriez?
Dans un portefeuille?
Ouais, dans un portefeuille. De taille moyenne. Je veux dire, on parle pas de très grosses fortunes.
Je pense qu'il faut le dire, on avait historiquement.
Parce que Meyer, il parle qu'à des milliardaires.
Portefeuille type 60-40.
J'ai essayé d'aller chez lui. Ils m'ont jeté. J'ai même pas passé la porte.
Moi, je pense entre 5 et 10% pour commencer, maximum, c'est très bien. Avec le niveau de diversification que j'ai précisé tout à l'heure, ça me semble être suffisant.
Moins. Ça vous va, ça? Meilleur, 5 à 10%?
Absolument, pour des clients en gestion privée qui peuvent avoir quelques centaines de milliers d'euros s'ils ont du temps devant eux.
Bien sûr.
S'ils n'ont pas de temps devant eux, zéro.
Alain, votre tuyau?
J'en ai deux. Je dirais, le premier, c'est, je reprends sur le sujet des vintage. Je pense que c'est pour rentrer dans le private equity quand on est client privé. Mettre 10% le premier jour, je pense que c'est un peu risqué.
C'est ce qu'a dit Cyril. Vous l'avez écouté?
Oui, mais c'est le très bon point parce qu'il faut y aller. Mais alors, peut-être par coup de 2%, c'est-à-dire que
un peu de temps,
mais en faisant comme ça, on est...
En diversifiant
et en y allant par petits coups. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est être extrêmement strict sur les frais.
Ah oui,
1% d'écart de frais sur 10 ans, c'est 10% d'écart à performance identique.
C'est vrai qu'on l'oublie complètement.
Oui, on l'oublie, mais
aujourd'hui,
avec la transparence qu'il y a, on sait... des frais de tout le monde, on sait pourquoi on paye. Donc, il faut absolument pas payer pour quelque chose qui
n'a pas de valeur. Et pourtant, les gens continuent à acheter des contrats d'assurance vie avec des droits d'entrée, avec des frais de gestion délirants, alors qu'ils ont...
Excusez-moi, Marc, c'est générationnel, parce que je questionne des gens, des gamins de 30 ans.
On traitait de vieux, là.
Oui, un peu. Mais les gamins de 30 ans, ils payent
pas. Ils font plus avoir.
Non, pas du tout. Alors là, c'est même un peu caricatural dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus.
Il faut
pas
non plus.
C'est ça. Et puis, il faut, parce que c'est pas parce que c'est pas cher que c'est bon. Enfin, voilà, il faut mettre le prix, le bon prix, mais pas surpayer, mettre des droits d'entrée sur l'assurance vie, enfin, c'est absurde. Donc,
vous êtes d'accord que c'est la règle quasiment un peu partout.
Il y a plein d'endroits où vous pouvez j'en vois qui opinent, parce que je pense qu'ils ne font pas payer de droits d'entrée.
Merci beaucoup, messieurs. Alain, vous restez avec nous. On va parler en deuxième partie de l'émission des enveloppes fiscales, on va parler actions, on va parler obligations, on va parler surtout produits structurés. Vous connaissez bien ça, Meyer aussi. Merci à tous d'être venus.
Merci.
À tout de suite.
C'est votre argent. Spécial placement. Marc Fiorentino.
Oui, spécial placement parce qu'on s'est dit que depuis le début de l'année, c'était quand même très, très... très compliqué de gérer son argent avec les événements qui se sont produits. Je vous rappelle qu'on nous avait annoncé que l'année allait être calme en début d'année. Bon, on n'avait pas tout à fait prévu la guerre en Iran et puis tout ce qui s'est passé derrière. Donc on s'est dit, bah tiens, si on faisait une émission pour vous expliquer un peu ce qu'il faut faire sur vos placements, prendre un tout petit peu de recul et évidemment, vous le savez, pour une émission spéciale, qu'est-ce qu'il faut ? Pas un animateur, on s'en fout de ça. Il faut des invités spéciaux. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'allocation d'actifs et des placements. Marine Abiad, d'abord, bonjour.
Bonjour Marc.
Merci d'être venu. Vous êtes partenaire chez Goldman Sachs et spécialiste des produits structurés. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas, en fait ?
Je suis responsable de la division action pour Goldman en France, donc côté salle des marchés.
C'est-à-dire ? Pratiquement, vous faites quoi ?
C'est-à-dire, je dirige les équipes qui parlent aux gérants actions, les équipes qui créent des produits structurés et qui aident à les distribuer. Je gère les équipes qui parlent aux hedge funds.
On va parler produits structurés avec vous. Okay. Très à la mode, ça. Hein.
Très à la mode, c'est le produit phare de ces 5 dernières années. Rien qu'en assurance vie, c'est plus de 20% de la collecte encore l'année dernière. Donc...
Ah, c'est 20% de la collecte ?
Oui, en assurance vie.
Ah, c'est dingue. Justement, on va parler assurance. Loïc Le Foll, merci d'être venu. Vous êtes directeur de l'épargne patrimoniale d'AG2R La Mondiale et directeur général de La Mondiale Euro Partner. Vous avez une carte de visite, elle doit faire 12 mètres. Non, oui, il va falloir raccourcir tout ça. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, AG2R La Mondiale, on connaît La Mondiale Euro Partner, racontez-nous.
Bah, donc, c'est La Mondiale Partenaire, La Mondiale Euro Partner, donc deux compagnies qui sont sœurs, qui sont les deux entités qui distribuent les produits d'assurance patrimoniale du groupe AG2R La Mondiale.
Donc, assurance vie.
Assurance vie. Aujourd'hui, c'est 57 milliards d'encours et
ah ouais,
6 milliards de collectes.
Assurance vie française, mais aussi assurance vie luxembourgeoise.
Absolument.
C'est ça dont on va parler parce que vous imaginez bien qu'à l'approche de 2027, vos oreilles doivent siffler.
Tout à fait.
On reçoit la grande prêtresse de l'allocation d'actifs en France qui s'est faite désirer, Adina Grigoriou. Vous êtes présidente et fondatrice d'Actif Asset Allocation. Merci d'être venue. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ?
Alors, dans la vie, je fais de l'allocation d'actifs.
Je fais du speed dating. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ? Alors, moi, je suis dans la finance et puis je présente une émission de temps en temps. Et vous, alors ?
Et moi, je fais de l'allocation d'actifs depuis tellement longtemps que j'ose plus le dire.
Ça veut dire quoi, je fais de l'allocation d'actifs ? C'est-à-dire, vous avez des clients aujourd'hui particuliers, des comptes de clients particuliers ? Non, c'est pas ça.
Non, ce sont des institutions.
Oui.
Pour leur propre compte, mais aussi pour leur compte de leurs clients.
Donc des distributeurs, par exemple, ou des compagnies d'assurance
Exactement.
Qui ont
Exactement.
Eux-mêmes des clients, qui ont besoin d'être accompagnés dans l'allocation d'actifs, viennent vous voir et vous avez développé énormément de logiciels, plein de
C'est
choses
ça.
Très, très pointues.
Exactement, donc on a commencé vraiment par l'allocation d'actifs, par tout le côté algorithmique, et aujourd'hui on a mis en place toute une infrastructure de marché qui permet de faire du calcul et de la décision en épargne pour tous les acteurs de ce marché.
Et on a gardé, parce qu'il avait mis une cravate, je me suis dit quand même, le gars il a mis une cravate, je peux pas le faire partir, venir pour une seule émission. Et donc, je vous ai gardé en deuxième
oui,
plateau.
C'est
vous, êtes, vous êtes devenu le spécialiste de l'allocation d'actifs de C'est Votre Argent, avec, je le rappelle, son allocation d'actifs que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Vous savez, Adina, c'est notre spécialiste allocation, donc il nous donne ses allocations, il les remet à jour. C'est très sympa et c'est disponible sur les réseaux sociaux et les gens aiment beaucoup. Alors, on va démarrer tout de suite avec vous, Alain et Loïc. On va parler des enveloppes. S'il te plaît, dis-moi où, Loïc. Les enveloppes fiscales sont essentielles dans la gestion des placements en France. Je vais d'abord me tourner vers Alain. C'est quoi les principales enveloppes fiscales ? Parce qu'en France, la fiscalité, ça fait tout. Hein. Ça fait le succès de l'assurance vie, c'est quand même oui. le placement préféré des Français.
Oui. Bon. Alors l'assurance vie, je laisserai Loïc en parler.
Mais les grandes enveloppes, c'est
les grandes enveloppes, il y a le PEA. Il y a déjà les comptes titres ordinaires, déjà. C'est ce qu'on avait dans le temps, qui n'a pas changé, qui n'est pas limité. Alors avec des
inconvénients fiscaux. Mais c'est pas fiscal, ça.
C'est fiscalement, c'est pas très intéressant. Enfin,
c'est
ça
même
peut
nul.
Servir quand même.
Bah oui. Bah, enfin, on n'a rien d'autre, quoi.
Mais si vous avez vraiment des capitaux, ça peut permettre d'avoir de la disponibilité tout de suite. Il y a le PEA. Donc, qui est limité en encours, qui est limité également en support d'investissement dans lequel on peut investir.
De moins en moins.
De moins en moins, mais enfin quand même encore un peu, malgré tout. Il y a l'assurance vie, donc je laisserai Loïc en parler. Il y a le PER, c'est le petit frère de l'assurance vie, mais avec un objet de retraite.
Énorme carton. Hein.
Voilà, énorme carton, parce que les gens se rendent bien compte que c'est intéressant de placer de l'argent avec un avantage fiscal à l'entrée, et puis de se retrouver avec un placement potentiellement intéressant, puisqu'en fait, vous pouvez, là aussi, c'est un peu comme l'assurance vie, vous pouvez investir dans quand même pas mal de supports. Et on l'oublie beaucoup, et je trouve ça dommage, c'est les plans d'épargne entreprise et les PERCO, en fait. c'est deux supports d'investissement.
Ça se développe.
Énormément. Il y a grosso modo 200 milliards dedans.
Vous dites on en parle peu, on en parle quand même. Enfin, ça se développe quand même.
Oui, ça se développe, mais si vous voulez, quand on prend 80% des émissions ou des...
C'est vrai.
Des...
Ouais, nous, on n'en parle jamais.
C'est vrai, pas tellement.
Ouais,
alors qu'en fait, c'est un avantage fiscal. À l'entrée, il y a votre employeur qui peut abonder, c'est-à-dire qui peut mettre un peu au-dessus de ce que vous avez mis vous-même, et ça peut aller jusqu'à pratiquement tripler ce que vous avez mis sur des petits montants. Donc c'est quand même intéressant. Pendant très longtemps, c'était investi dans les titres de l'entreprise, et puis en fait, maintenant, pareil, vous pouvez avoir accès à un panier de fonds qui est quand même intéressant. Les grands fournisseurs, que ce soit BPCE ou Amundi, fournissent un accès à énormément de fonds. Donc vous pouvez faire une allocation d'actifs un peu de la même façon que ce que vous faites en assurance vie. Ça se complète. Alors après,
l'idée, vous dites qu'il faut avoir tout, en fait.
Il faut avoir de tout. Alors je pense que bien souvent, pour commencer sur les actions, vous commencez avec un PEA, parce que vous pouvez faire de l'épargne programmée, des choses comme ça. Quand vous avez un peu plus de capitaux, vous passez dans l'assurance vie. Quand vous êtes beaucoup fiscalisé, vous allez placer dans un PER. Et puis quand vous avez la chance d'être dans une entreprise, que toutes les entreprises ne l'offrent pas, les petites entreprises souvent n'offrent pas de plan d'épargne salariale, mais quand vous êtes dans une grande entreprise, vous pouvez avoir accès à de l'épargne salariale. Et je trouve que c'est une manière de compléter son épargne.
Adina, quand vous conseillez sur l'allocation d'actifs, est-ce que vous tenez compte de l'enveloppe fiscale ?
Alors l'enveloppe fiscale n'a pas d'incidence en fait sur l'allocation d'actifs. L'allocation d'actifs, c'est...
À l'intérieur, en fait, c'est dans l'enveloppe. C'est dans l'enveloppe. Une fois que les gens ont choisi leur enveloppe en fonction de leur situation, que vous intervenez.
C'est ça.
Et aujourd'hui, très récemment, est-ce que vous dites, vous faites de l'allocation d'actifs depuis très longtemps. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé sur l'allocation d'actifs? Tout ce qu'on a dit en début en première partie de l'émission, c'est qu'il y avait un accès aujourd'hui pour les clients particuliers à toutes les classes d'actifs. On va parler des produits structurés. C'était quand même un truc. Franchement, pour des institutionnels, on a parlé du private equity avec Cyril en première partie, qui n'était pas disponible. On a parlé du crédit privé, on parle d'autres classes d'actifs. Du coup, votre métier, il a complètement changé, non ?
Alors, mon métier n'a pas changé dans le sens où une allocation d'actifs, c'est une allocation d'actifs. Mais ce qui a changé, c'est le fait qu'effectivement, elle soit accessible à partir de 1 euro. En fait. Et donc là où... Donc tout ça grâce aussi notamment à tout le développement du digital, de l'IA, etc. Ce qu'on mettait des semaines à faire avant pour des instits aux petits oignons, maintenant on est capable de le faire en quelques secondes, complètement individualisé pour un épargnant à partir de 1 euro. Et après, ce qui a changé par contre, c'est le fait que tout le monde s'y intéresse. Tout le monde a envie d'investir. Je pense que tout le monde a compris que...
Vous sentez ça ?
Ah, moi, je sens ça. Ouais. Je sens qu'il y a un intérêt de la part de tout le monde pour les investissements. Et l'autre chose que je sens aussi, c'est que les gens ont compris, par exemple, qu'investir dans un ETF, c'est... Alors, je vous dis ça sans aucun intérêt commercial, bien sûr, mais que les ETF sont des représentations du marché.
C'est ça.
Et que donc, c'est une façon simple de commencer à investir quand on ne sait pas quoi faire et qu'on n'a pas accès à...
Avec des frais moindres aussi.
Avec des frais plus faibles, etc.
Je pense que plus la gamme s'élargit, plus c'est important, en revanche, d'être accompagné. Il faut beaucoup de pédagogie pour comprendre tous les produits. Et donc, aujourd'hui, il y a une palette extrêmement large qui est proposée aux investisseurs retail. Mais c'est dur de décortiquer tout ça.
Je suis d'accord. C'est ce qu'on disait en première. Vous avez raison, parce que ce qu'on disait en première partie de l'émission, c'était que, bon, par exemple, il y a une mauvaise compréhension sur le private equity.
Ouais.
Mauvaise compréhension sur le crédit privé. C'est-à-dire que les gens cherchent de la liquidité sur des produits qui ne le sont pas.
Bien sûr.
Alors, les assureurs ont la gentillesse d'assurer une partie de la liquidité, mais finalement... finalement, ça rend service, mais ça donne une fausse impression de liquidité, alors qu'il ne devrait pas y avoir de liquidité. Loïc, je me retourne vers vous. Vos oreilles sifflent, là, j'imagine, depuis quelques mois. On entend un peu partout dans la presse que les Français se précipitent vers les contrats d'assurance-vie luxembourgeois. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la collecte a explosé ? Évidemment, il y a le risque sur la dette française, il y a le risque sur la France, il y a le risque des élections. C'est quoi les avantages des contrats d'assurance-vie luxembourgeois ? Pourquoi cet attrait ?
Alors, peut-être, Marc, pour revenir à la première question, est-ce que c'est vrai ? Alors, effectivement, il y a un engouement plus marqué depuis 2024, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale.
De triste mémoire.
Voilà. Mais donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose de vrai. Par contre, maintenant, je vais peut-être tuer un mythe, parce que donc effectivement, on parle de l'assurance luxembourgeoise comme si c'était au même niveau que l'assurance française. Il faut voir que l'année dernière, si je prends les chiffres de France Assureur, les cotisations représentaient, je crois que c'est un peu plus de 190 milliards en France, contre au Luxembourg, pour les résidents français, à peu près 17 milliards. Donc on parle quand même de 8%. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai vu aussi les articles récemment.
Ah oui.
Mais donc voilà, donc on parle de 8%. Ça reste quand même marginal, et donc il faut voilà, il faut tout remettre, ouais, remettre en perspective.
Alors 8%, oui, vous avez raison, ça reste marginal, mais même moi le chiffre me surprend. C'est-à-dire je trouve que c'est beaucoup 8%, parce qu'on parle, comme vous l'avez dit, quasiment de 20 milliards. C'est quoi l'attrait du produit?
Alors, je pense que l'attrait vient d'un côté d'un monde où on a besoin de plus de sécurité et aussi plus d'internationalisation. Donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est l'évolution aujourd'hui. Plus de sécurité, pourquoi? Parce que dans le monde du patrimonial, quand on cherche de la diversification, on va chercher la diversification en termes d'enveloppe, en termes de produits, en termes de sous-jacents, mais il va y avoir aussi la diversification géographique. Et donc, quelque part, l'assurance vie luxembourgeoise permet cette, j'allais dire, en tout cas, contribue à apporter une diversification géographique. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a aussi le fait que Luxembourg fait partie des rares États aujourd'hui qui est encore triple A. Donc, il y a une certaine sécurité, stabilité du gouvernement. Et puis, après, vous avez aussi, j'allais dire, plus de flexibilité qui est offerte par le produit.
Très net sur les produits structurés. Il y a beaucoup plus de facilité à référencer un produit structuré en assurance vie luxembourgeoise qu'en assurance vie française.
Oui, mais d'un autre côté, j'ai l'impression, moi, qu'il y a quand même... À la fois, il y a plus de flexibilité, mais parfois, on a l'impression qu'il y a un peu de lourdeur. Quoi. Parce que l'assurance vie française, c'est quand même... Bon, c'est quand même hyper,
fluide,
quoi.
C'est ça. Mais il faut imaginer que le produit à la base est plus complexe. Donc ça, c'est vrai. Hein. Il faut imaginer un produit qui peut être multi-devise, ce qui n'existe pas en France, multi-banque dépositaire, multi-gestionnaire. Donc c'est quand même quelque chose. C'est plus, je dirais, plus qu'un produit. C'est une espèce de brique patrimoniale. Et effectivement, donc c'est plus difficile, mettre en place.
Alors, est-ce que vous diriez que c'est pour des gens qui ont déjà un patrimoine significatif? Parce que moi, je vois autour de moi, il y a pas mal de gens qui ont des petits patrimoines, hein, et qui se posent la question en disant, on va pas arrêter de répéter ça 2027, ah là là, tout ça va être la catastrophe. Est-ce qu'il faut que j'aille au Luxembourg? Est-ce que vous diriez que en dessous d'un certain seuil, il faut pas y aller? Alors, pas grave, hein.
Non, j'irai pas ça, Marc. Alors ça dépend des besoins de tout un chacun, puisque donc, comme disait Marine, donc pour des personnes peut-être d'un certain patrimoine, la recherche va être d'aller chercher justement des types de sous-jacents qui ne peuvent pas peut-être trouver dans l'assurance vie classique, mais vous pouvez avoir des personnes avec des patrimoines, j'allais dire, tout à fait normaux, qui vont chercher ce côté international. C'est-à-dire que...
D'accord. Donc vous dites pas, il n'y a pas une barrière à l'entrée en termes de...
Non. Et d'ailleurs, on assiste aujourd'hui à une démocratisation. Non. C'est-à-dire que la digitalisation permet d'aider ce à quoi donc tu faisais référence, hein, donc tout à l'heure. C'est-à-dire cette lourdeur administrative. La digitalisation permet de la simplifier petit à petit, et aujourd'hui, on assiste à une démocratisation de l'assurance luxembourgeoise.
Adina, vous qui faites conseiller dans l'allocation d'actifs, est-ce que dans les enveloppes luxembourgeoises, il y a autant de flexibilité que dans les enveloppes françaises, et vous pouvez exprimer votre allocation d'actifs de la même façon?
Il y a plus de flexibilité.
Il y a plus de flexibilité.
Il y a moins de règles.
Il y a moins de règles.
Exactement.
Et puis d'instruments.
Accès à plus d'instruments, exactement.
D'accord. Justement, alors on va parler des instruments auxquels on a accès dans l'assurance vie luxembourgeoise, c'est les produits structurés. Alors, Marine, vous allez nous expliquer ce que sont les produits. J'ai mis Richger, mais c'est pas par rapport à vous. Hein. Ne le prenez pas personnellement, c'était juste, je mets de l'animation musicale. Donc, expliquez-nous ce que sont les produits structurés, expliquez-nous comment ça fonctionne. Voilà. Professeur Abiad, à vous.
Donc on le disait, le produit structuré, pour moi, c'est le produit phare de ces 5 dernières années. Et rien qu'en assurance vie, c'est plus de 20% de la collecte, mais c'est aussi disponible dans le PER, c'est disponible en compte-titre. Le produit structuré, c'est une idée simple, c'est apporter une solution sur mesure, capable de répondre en toutes circonstances à des objectifs précis. Donc concrètement, par rapport à un investissement traditionnel type un ETF ou un fonds action, qu'est-ce qu'on fait? On vient ajouter une barrière de protection. On vient ajouter de la protection, une barrière qui te permet de limiter ton exposition à la baisse. Et ça, tu le finances en acceptant de plafonner ton gain potentiel.
Okay.
Donc concrètement, ça, voilà, donc tu passes d'un profil c'est d'investissement bon linéaire avec un ETF ou un fonds action à un profil d'investissement asymétrique.
C'est-à-dire que globalement, au lieu de se dire bon bah si le CAC monte, je prends 20%, s'il baisse, je perds 20%. Là, je me dis s'il baisse de 20%, ben j'ai pas de perte, mais par contre s'il monte de 20%, je vais peut-être prendre que 5%. C'est ça ? Ouais, j'ai compris ou pas ?
Exactement. C'est ça l'approche.
Tu es bon Alain ou pas ?
Pas mal.
Ouais, pas mal.
Techniquement, ça se passe comment ? C'est l'assemblage de deux instruments, une composante obligataire qui permet d'apporter la sécurité sur le capital et une composante optionnelle des dérivés qui permet de générer de la performance. Et cette performance, elle peut être générée par plusieurs moteurs. Ça peut être une action, un panier d'actions. La seule contrainte, c'est qu'elle soit suffisamment liquide. Ça peut être un indice benchmark ou un indice sectoriel pour jouer une thématique. Ça peut être plus ou moins diversifié géographiquement. Ça peut être une matière première. On peut jouer le pétrole, on peut jouer l'or. Ou ça peut être même les taux d'intérêt. Donc, c'est une classe d'actifs.
Il y a eu beaucoup, récemment, il y a eu beaucoup de produits structurés sur les taux d'intérêt, justement. On a réussi, parce que vous avez réussi à sortir des produits structurés enfin, qui permettaient.
Depuis 2022, la remontée des taux d'intérêt.
Voilà, qui permettait d'avoir à la fois un capital garanti et puis un coupon si les taux baissaient, c'est ça ?
Exactement.
Ouais. Parce qu'il y a aussi des produits structurés à capital garanti.
Bien sûr. Bien sûr, et c'est ça qui a permis d'ailleurs de faire doubler le marché entre 2021 et 2023. Bah oui. C'est la capacité à s'adresser à une audience beaucoup plus large parce qu'on avait de la garantie en capital. Donc, c'est vraiment une classe d'actifs extrêmement riche qui peut s'adresser à toute typologie de clients et où tu peux faire vraiment du chirurgical. C'est ça qui est très intéressant. Ça ne s'adresse pas à une élite ou à des experts. Tu n'as pas besoin d'avoir une vue, une conviction sur les marchés puisqu'en fait, tu peux générer du rendement dans des marchés qui montent, qui stagnent, voire qui baisse. En fait, la seule priorité, c'est d'avoir un objectif précis, un horizon d'investissement, un seuil de tolérance de risque et un objectif de rendement.
Et justement, dans la période qu'on a pu connaître il y a quelques semaines avec la guerre en Iran, qui était au plus excité, avec une volatilité qui était forte, est-ce que c'est juste au moment où il y a, par exemple, le plus de volatilité, je sais que c'est important dans le prix d'un produit structuré, qu'il faut faire du structuré, ce qui peut paraître contre-intuitif, parce qu'on peut se dire, bah, c'est là que c'est le plus agité, j'ai pas envie d'y aller.
Non, c'est ça qui est génial, c'est que le produit structuré, ça s'adapte à tous les profils et à toutes les configurations de marché.
Calme maintenant, ou agité ?
Exactement.
Marché volatile, pas volatile ?
Tu me demandes en ce moment, moi en ce moment, ce que je vois,
on
c'est que...
On se tutoie maintenant avec Marine. Vous avez vu qu'on est...
La deuxième fois que je fuis.
Ouais, donc maintenant il faut... Vas-y. Alors vas-y Marine.
Écoute, on fait face à un choc inflationniste qui génère énormément de volatilité sur les taux d'intérêt et à une grosse incertitude. Personne n'a la prétention de savoir ce que Trump va faire demain. Donc moi, je ne prendrais pas du tout un pari directionnel. Je ferais un produit qui tire profit du niveau élevé des taux d'intérêt, du besoin d'appétit de funding des banques. Et donc, je ferais tout simplement une note 10 ans, capital garanti, qui verse un taux fixe, qui est rappelable tous les ans par un émetteur.
Et on peut avoir quel type de...
Entre 5 et 6.
En l'occurrence, Goldman Sachs.
En ce moment, entre 5 et 6.
T'as passé un petit peu de pub, là. T'as profité, t'as bien fait. 5 à 6%, c'est ça?
Exactement.
Très bien, allez, on va passer. Je voudrais garder un peu de temps et je voudrais que vous preniez du temps. On en a gardé un petit peu. Merci beaucoup, Marie. C'était très clair. Sur vos tuyaux, et j'ai un message d'Enrico Mathias. Alors, je vais commencer par Loïc. Loïc, si... Alors, on va se tutoyer maintenant, parce que Marine a décidé que c'était comme ça. Donc, on va se tutoyer. Loïc, si tu avais un tuyau à donner à des gens qui nous écoutent, qui sont épargnants aujourd'hui, ça serait quoi le tuyau de Loïc pour l'année 2026 ? Pas forcément un placement, mais peut-être un truc, une erreur à ne pas faire, ou au contraire, quelque chose dont il faut se...
Alors, je dirais, pour moi, effectivement, ce ne serait pas tant sur le produit, ce serait au niveau du conseil. Parce que je pense qu'au-delà du produit, hein, on parle de structuré, on parle de private equity. Tout à l'heure, tu parlais donc d'assurance luxembourgeoise. Je pense que le plus important, c'est la qualité du conseil et la qualité de l'accompagnement après. Puisque donc, on est sur du patrimonial, on est sur du moyen terme, du long terme, on est sur des structurés. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. Mon conseil, c'est vraiment choisissez bien.
Je comprends, mais je comprends. Hein, tu as tout à fait raison. Je ne peux pas dire le contraire, compte tenu d'une partie de mon métier. Mais d'un autre côté, c'est pas facile de trouver des conseils. Et puis il y a beaucoup. On en parlait en première partie d'émission. Il y a beaucoup de conneries qui se racontent sur les réseaux, de vidéos, de machin. Donc
le régulateur, il a fait un énorme travail sur le devoir de transparence,
c'est ça,
qui a permis vraiment de renforcer la confiance.
Elle faillote
pour les produits structurés, en tout cas, c'est beaucoup mieux encadré, c'est beaucoup mieux distribué. distribuer. C'est des produits complexes, oui, mais c'est pas des black box. Et ça nécessite de la pédagogie. Et c'est sur ces 10 dernières années, les intermédiaires, les distributeurs, ils ont permis une énorme montée en compétences des clients.
Oui. Eh bien, puisque tu as la parole, tu vas la garder. Marine, c'est quoi ton tuyau?
Écoute, pour moi, ce serait de dire qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible, puisque l'élément le plus puissant dans l'épargne, c'est la capitalisation. C'est l'idée que tu vas créer des profits, non pas seulement sur le capital que tu as investi initialement, mais sur les gains que tu commences à accumuler au cours du temps.
C'est du Warren Buffett,
ça. Oui, donc c'est de le dire que ta croissance, elle n'est pas linéaire, mais elle est exponentielle. Il ne faut pas rompre la chaîne des intérêts composés, donc il ne faut pas vendre, tu vends en sortant. Et en ce moment, j'ai beaucoup de questions qui me sont posées pour dire, OK, dans le contexte actuel, est-ce qu'il ne faut pas vendre? Je trouve ça très difficile de savoir quand on est à la veille d'un bear market. En revanche, ce que tu peux savoir, c'est bien lisser tes points d'entrée. Et quand tu as des corrections intéressantes, comme c'est le cas actuellement, bah, c'est bien de rentrer.
Adina, on se tourne vers toi. Tu as du temps. Tu vas nous parler de l'allocation d'actifs que tu connais par cœur. Est-ce que tu peux nous donner un tuyau en matière d'allocation d'actifs?
Ouais, j'ai envie de donner plein de tuyaux en matière d'allocation d'actifs.
Vas-y.
Donc déjà, bien sûr, tenir compte de son horizon d'investissement. Mettre toujours le...
Non mais alors juste, je t'interromps, oui. Parce que oui. Je pense que les gens qui regardent vont se dire « Ah, mais ça, c'est des banalités et tout, mais et en non, première non, partie, c'est... on a parlé. » En fait, et ce que tu as dit aussi, et Loïc aussi, c'est-à-dire c'est des trucs les plus simples c'est... que les gens oublient.
Exactement. Oui. Et je pense qu'il y a un point, je ne sais pas si ça s'est dit tout à l'heure, mais en fait, le risque qu'on prend sur un investissement dépend de son horizon d'investissement. C'est-à-dire que, par exemple, on peut se dire un investissement en fonds en euros, c'est sans risque. Oui, jusqu'à un certain temps d'investissement. C'est-à-dire que sur très longue période, on prend moins de risques à investir sur les actions que sur le fonds en euros. Donc, en fait, il y a un
Alain,
lien
tu
très, très fort là-dessus.
On se tutoie en temps.
Oui.
Tu dis si tu trouves ça nul ou pas.
Oui, tu pourras. Tu
c'est,
pourras
pas c'est pas mal, hein. Pour le moment, continue.
Voilà. Et après, il y a un autre...
Il valide.
Il y a un autre... Merci, Alain. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il y a un autre point qui est important. Nous, on fait de l'IA depuis plus de 10 ans, d'accord, dans l'allocation d'actifs. L'IA, tout le côté quantitatif, tout ça. Il faut, c'est pas du tout la martingale. C'est-à-dire que faut pas croire que parce que c'est facile et que ChatGPT l'a dit, ou Claude, enfin, que il faut absolument suivre, que c'est un bon conseil financier. Je pense qu'il faut faire très attention aujourd'hui à ceux qui utilisent directement ou s'improvisent allocataires grâce à l'IA, etc. C'est un vrai métier, c'est pas pour rien.
Adina, on profite de ta présence dans la période, on va pas revenir sur les événements actuels, mais dans une période comme celle qu'on vient de connaître, en début d'année, est-ce que tu pourrais, et Alain peut-être très rapidement aussi, nous dire à quoi ça ressemble un portefeuille, les portefeuilles que tu vois, un portefeuille équilibré aujourd'hui, c'est quel type d'allocation?
Mais encore une fois, je suis désolée, mais ça mais dépend de
désolé.
Ton horizon.
D'accord.
Donc si tu as un horizon retraite et si tu as oui. un horizon acheter ta maison dans 3 ans, ton allocation ne doit pas être
alors,
la
vas-y,
même.
Si tu as un horizon retraite... tu vois, tu as essayé de t'en sortir, mais, non, mais je le connais ce coup-là, je l'ai non, fait 10 fois attends, sur des plateaux quand
non,
j'étais
mais
pas prêt.
Vrai. Mais la question aussi, c'est est-ce que tu mets tout ton argent tout de suite ou est-ce que tu vas mettre de l'argent tous les mois?
Ce qui
d'ailleurs est une meilleure idée. Non, c'est que en fait, il y a autant d'allocations optimales que de profils, que d'objectifs, etc. Et la magie, c'est qu'on peut prendre tout ça en compte aujourd'hui et faire vraiment des allocations sur mesure. Pour oui. chaque personne.
Alain, très rapidement.
Moi, je dirais deux choses. La première, je reprends ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est le conseil. Donc,
okay.
Et passer un peu de temps sur définir son allocation stratégique. Ça, c'est le premier conseil. Il faut y passer du temps. Vaut mieux parfois retarder un investissement de quelques semaines, mais avoir bien défini son allocation. Mais par contre, après, le conseil important, c'est de pas trop s'éloigner de cette allocation stratégique. C'est-à-dire que on peut s'amuser à faire du market timing sur son PEA, faire un petit peu d'arbitrage.
Mais quand on n'est pas trader, vaut mieux pas.
Oui. Mais sur sa allocation stratégique, je pense que le mieux à faire, c'est grosso modo, tous les 6 mois, revenir sur l'allocation stratégique. C'est-à-dire que, par exemple, les marchés actions ont baissé, bah, au bout de 6 mois, on réalloue un peu en vendant un peu d'allocation actions pour revenir un peu sur les obligues, etc. Mais jamais s'éloigner trop de cette allocation stratégique. Je pense que c'est le meilleur conseil à donner.
Merci à tous.
D'accord.
Pas tout merci. À fait, mais à on fait. Pourra en discuter une autre fois.
Ah bon, on fera une autre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous revoir et nous réécouter. Surtout cette émission qui est faite pour durer, puisqu'on a donné des conseils qui sont des conseils qui dépassent les périodes. Donc n'hésitez pas à le faire pour combattre tous les records en matière de podcast.
C'est votre argent, spécial placement sur BFM Business.